Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le 17 octobre 2019, il y a donc un an, jour pour jour, avait marqué le début de la contestation populaire au Liban. Une contestation contre la dégradation économique, contre l'impasse politique, contre la corruption et l'impossibilité croissante des communautés à s'entendre. Un an plus tard, que sont ces manifestations devenues ? En lisant le dernier livre de la journaliste Laure Stéphan, installée à Beyrouth depuis plus de 10 ans, on comprend mieux les interrogations de la société civile libanaise sur son avenir. Libanais est une galerie de portraits qui livre une juste et singulière radiographie d'un peuple en résistance. À suivre la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Laure Stéphan.
Bonjour Éric Bataillon.
Journaliste, vous êtes installé au Liban depuis plus de 10 ans, où vous assurez la correspondance du journal Le Monde ainsi que de plusieurs radios francophones, dont RFI. Et votre livre, publié aux éditions Henri Dougier dans la collection Lignes de vie d'un peuple, s'intitule tout simplement Libanais. Ce serait donc un livre sur les citoyens de ce pays et non pas sur le Liban lui-même ?
C'est juste, c'est ni un livre de politique, ni un livre de géopolitique. C'est un livre qui forcément va parler du Liban, mais c'est surtout mon idée, c'était d'essayer de brosser un portrait de la société, d'une société qui est extrêmement divisée, fragmentée, et de brosser ce portrait par petits fragments, par petites touches, en donnant la parole, en rencontrant des personnes d'horizons variés, que l'horizon soit un horizon social, un horizon communautaire, un horizon éventuellement politique. Ce livre propose, j'espère, une rencontre avec des Libanais, essayer de parler des Libanais avec humanité.
Oui, une galerie de portraits en quelque sorte. Alors, vous n'êtes pas libanaise vous-même, Laure Stéphan. Votre rencontre avec le Liban fait l'objet d'une déclaration liminaire. En quoi cela-t-il été un choc pour vous ?
Ça a été un choc, je crois, parce que déjà je vivais loin du Proche-Orient. Le jour même où je suis partie, il y a une attaque qui commence au moment où l'avion va décoller. Et à l'arrivée, ce sont des combats. Et puis finalement, ça va être une guerre. Donc il y a quelque chose d'extrêmement violent, extrêmement rapide qui se passe. Et puis, je crois que ça a déclenché énormément de questions, encore plus de questions que celles que j'avais auparavant, avant de décider de m'installer au Liban. Ça m'a donné envie de comprendre et je me suis rendue à l'évidence que pour comprendre cette région, il fallait être sur place.
Votre livre, on l'a dit, est une série de rencontres que vous avez divisées en séquences. Il y a par exemple la litanie de l'après-guerre. Pourquoi cela est-il si long de tourner la page ?
C'est long de tourner la page, déjà parce qu'il y a une absence de vérité. Ça, je crois que c'est un grand problème. Absence de vérité sur ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est quelque chose qui pèse sur le quotidien. C'est quelque chose qui fait que chacun a pu peut-être quelque part s'enfermer dans la mémoire de ce qu'il avait vécu. Quand je dis s'enfermer dans cette mémoire, ça ne veut pas dire que c'est une mémoire qui est fausse, mais c'est une mémoire qui est personnelle et qui ne prend pas en compte peut-être la mémoire de la personne qui était de l'autre côté du conflit. Et ça, justement, c'est le travail d'historien, en fait, quelque part, de mêler les mémoires et puis surtout de prendre les faits, d'analyser les faits et de raconter ce qui s'est passé à partir de ça. Donc, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait. Certaines associations, certains militants ont essayé de le mener, mais il me semble que parce qu'il y a eu une amnistie, parce qu'il y a eu un désir de dire on tourne la page, en réalité, on n'a pas tourné la page, elle est restée grande ouverte.
Vous pensez que c'est une volonté politique, peut-être de toutes les parties d'ailleurs, de mettre sous le tapis cette expérience désagréable de la guerre civile ?
Alors je crois qu'en premier lieu, c'est parce que ceux qui sont restés au pouvoir, donc qui sont des chefs politiques, qui étaient déjà des chefs politiques pendant la guerre, étaient également des chefs miliciens, et n'avaient évidemment aucun intérêt à être tenus responsables, à être interrogés sur ce qu'avaient fait leurs milices pendant la guerre. Donc à partir du moment où on n'a pas changé l'ordre du pouvoir pendant la guerre, il est resté le même, même si évidemment il y a eu Taef, il y a eu un nouvel ordre, un ordre non milicien qui s'est mis en place. C'était quand même très difficile d'aller vers un établissement de ce qui avait été fait durant la guerre.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, en 2020, des militants pour la vérité ?
Ah, il y a absolument des militants pour la vérité qui continuent à faire leur travail. Notamment, on peut parler des familles de disparus dont il est question dans le livre. Deux femmes, Wadad Halwani et Souhad Karam, parlent de ce qui leur est arrivé et parlent de leur engagement. Vous voyez, on est donc 30 ans après la guerre, entre 37 et 38 ans pour chacune d'entre elles par rapport aux faits qui sont arrivés. Donc l'une, son mari a disparu après l'arrivée au domicile de personnes qui disaient vouloir interroger son mari. L'autre, son mari a été enlevé à un barrage milicien. Elles n'ont toujours pas de réponse. Il y a eu sur cette question des disparus des petites avancées, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de vérité publique sur ce qui est arrivé aux disparus pendant la guerre.
Le second chapitre, Laure Stéphan, rend compte de la diversité du peuple libanais, diversité culturelle mais aussi cultuelle, voire d'origine diverse. Est-ce un atout pour le Liban ou une faiblesse ?
Ah, c'est certainement un atout, en fait. C'est ce qui fait la richesse du Liban et c'est certainement aussi ce qui fait que ce pays fascine aussi. Après, pour organiser tout ça, il a fallu trouver un mode fonctionnel où chacun se sentirait en sécurité ou avec des garanties. Et quelque part, le système qui a été trouvé n'est pas fonctionnel puisqu'il a donné lieu à des crises. Le Liban va de crise en crise. Le mot crise est associé au Liban. Donc, c'est cette richesse aujourd'hui un des enjeux et c'était une des questions qui était posée aussi par rapport au soulèvement de 2019. C'était comment trouver un mode juste pour pouvoir vivre ensemble en harmonie quelque part.
Alors, le Liban, le pays du miel, du lait et du café amer, écrivez-vous dans votre troisième chapitre. Vous suggérez que derrière la belle vitrine se cache une réalité peu réjouissante, pauvreté, exclusion, corruption, c'est cela ?
Je crois qu'il y a une image d'Épinal qui est associée au Liban, qui est le Liban, c'est l'expression la Suisse du Moyen-Orient. Il y a une richesse très forte au Liban, mais il y a aussi une pauvreté qui est très forte. En fait, c'est depuis toujours une société qui est inégalitaire. Et ces inégalités se sont creusées à différents moments. Mais si on regarde même avant la guerre de 75-90, il y avait des ceintures de pauvreté autour de Beyrouth. Donc c'est pas une réalité nouvelle, cette pauvreté dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y avait des ceintures de pauvreté autour de Beyrouth et c'est dans ces ceintures de pauvreté que les milices qui ont mené la guerre ont recruté. Donc une société à deux vitesses depuis très longtemps, une société avec un système bancaire qui faisait la fierté des Libanais, une société qui après la guerre est restée en fait sur ce pilier, on va dire, du système bancaire et sur le pilier des services, mais qui n'a pas développé une économie productive. Et on le voit en ce moment où c'est la tempête au niveau bancaire, hein, où il y a une crise financière qui est très forte, c'est d'autant plus difficile de résister qu'il n'y a justement pas cette production locale qui permettrait d'amoindrir les contre-coups de la crise.
Et justement, ces manifestations populaires qui ont commencé voici un an jour pour jour, expriment-elles un ras-le-bol de ces frustrations accumulées au fil des ans ?
C'est ce qui s'est exprimé, on peut le rappeler au départ, ces manifestations, elles ont lieu parce qu'il y a une décision de taxer les appels WhatsApp. Et donc le soir du 17 octobre, ce sont des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont présents et qui manifestent contre ça. Mais ça, c'était l'étincelle, c'est ce qui est à la superficie. Derrière, il y a effectivement beaucoup de frustrations qui se sont accumulées. Et j'aime bien cette expression qui m'avait été dite par une manifestante qui est devenue très célèbre parce que c'est elle qui avait repoussé en donnant un coup de pied un garde du corps qui tirait en l'air, un garde du corps d'un député le soir du 17 octobre. Elle disait finalement, ce qui s'est passé ces jours-là, c'est qu'on s'est mis à dire dans la rue ce qu'on disait tout bas chez nous, ce qu'on n'arrêtait pas de répéter. C'est-à-dire, on en a marre de la corruption, on en a marre de devoir chercher un piston pour avoir du travail, on constate qu'on va de crise en crise en politique, on veut autre chose. Tout ça est venu sur la place publique et au fur et à mesure des jours, il y a eu finalement cette possibilité de s'exprimer et de se rendre compte à quel point la jeunesse, ou en tout cas une partie de la jeunesse aspirer à autre chose.
Et est-ce que l'explosion dans le port de Beyrouth le 4 août dernier a porté un frein à cette contestation ou est-ce que vous sentez, vous qui habitez à Beyrouth, vous sentez toujours cette frustration s'exprimer et les manifestations se développer ?
Alors moi je sens toujours la colère et la frustration, mais après la mobilisation en réalité elle s'est estompée et bien avant finalement la double explosion, elle s'est estompée à partir de l'hiver. Il y a de multiples raisons, une des raisons qui est avancée par des militants c'est l'effet corona, confinement, mais d'autres personnes mettent en avant aussi le fait qu'il n'y a pas d'alternative qui a été bâtie au cours des fortes semaines de mobilisation et que quelque part, des Libanais qui manifestaient ont fini par perdre confiance dans la rue. Ils avaient déjà plus confiance dans la classe politique, mais ils ont également perdu confiance dans la rue en raison de la difficulté à proposer une alternative. Il y a des groupes qui se sont formés, il y a des partis politiques non communautaires, donc qui n'ont pas joué le jeu politique des 30 dernières années, enfin qu'on n'entend plus, et qui ont réussi à recruter notamment des jeunes. Donc on peut voir qu'il y a un intérêt, mais il y a aujourd'hui pas encore d'alternative politique qui rassemble un nombre très important de Libanais qui a pu être mis en place.
Bon, malgré tout, le Liban, c'est un tout petit pays, mais très ouvert sur le monde, et à commencer par son monde le plus proche. C'est le dernier chapitre de votre livre. Cette posture ancienne, est-elle encore aujourd'hui un espoir pour les Libanais?
Oui, c'est une nécessité. De fait, le Liban a besoin de l'arrière-région et a besoin d'échanges avec les pays arabes voisins avec lesquels il a eu des échanges depuis des années. Et puis surtout, en fait, ce qui me semble certain, c'est que le destin du Liban est indissociable du destin de la Syrie. Alors aujourd'hui, la Syrie va très mal, la guerre n'y est pas finie. Le Liban est en crise, donc ce sont deux pays qui sont en crise et quelque part, la crise de chacun impacte sur l'autre.
Et les rapports avec Israël, on voit qu'il y a des discussions actuellement sur la question de la frontière.
Alors il y a des négociations pour la délimitation notamment des frontières maritimes. Pour l'instant, ces négociations, elles portent sur des questions en fait économiques qui visent à pouvoir exploiter du gaz, du pétrole.
Mais une normalisation, les Libanais l'entendent avec Israël ?
Je ne crois pas que ce soit une question qui soit ouverte et qui fasse débat en tout cas sur la place publique.
Merci Laure Stéphan, journaliste installée à Beyrouth, pour de nombreux médias francophones, dont RFI.
Merci à vous Éric Bataillon.
Votre livre libanais est publié aux éditions Atelier Henri Dougier, dans la collection Ligne de vie d'un peuple.
Orient Hebdo sur RFI.
يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار
Orient Hebdo sur RFI.
يا ليل الهم يا حبيبي أتمنى لو تغني وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي يا ليل الهم يا حبيبي.
Un extrait de Denis de la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan. Nous rejoignons maintenant Alexandre Bouchanti au Caire et Michel Paul à Jérusalem pour lire la presse. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
La situation sanitaire est en une de vos journaux respectifs cette semaine. Alexandre, l'épidémie repart dans le monde arabe.
Oui, tout à fait. Jeudi, le monde arabe a compté près de 15 000 nouveaux cas. Alors, c'est l'équivalent de deux fois les nouveaux cas du même jour la semaine dernière. Et les pays les plus affectés sont l'Irak, avec 3500 cas en une journée, le Maroc, 3300. Mais là où l'augmentation est la plus spectaculaire par rapport au nombre d'habitants, c'est la Jordanie, avec 2500 cas, et surtout le Liban, avec 1500 cas. Un Liban où la crise sanitaire vient s'ajouter à la crise politique et surtout économique pour rendre la vie des Libanais un véritable enfer, estiment des éditorialistes. Toutefois, quand on regarde le nombre global des morts, officiellement en tous les cas, qui ont été recensés dans le monde arabe, on en est à près de 33 000 pour 430 millions d'habitants, autant que la France avec ses 67 millions d'habitants.
Situation inverse en Israël, Michel Paul, où les choses semblent aller mieux.
Oui, ici, les chiffres du coronavirus parlent d'eux-mêmes et dès ce dimanche, le confinement, le second du nom, va être progressivement allégé avec, Eric, l'accent sur le mot « progressivement ». On trouve ce titre « ouverture et prudence » et aussi « ouf de soulagement ». Alors, les jardins d'enfants et les crèches, les commerces sans réception de public, les plages aussi vont pouvoir ouvrir, mais la colère reste grande, notamment chez les restaurateurs. Et les ultra-orthodoxes menacent eux de passer outre aux restrictions toujours en vigueur, qui touchent particulièrement les villes où ils résident. Dans la presse aussi, on souligne également une mesure qui a déjà été levée, plus de restrictions pour les manifestations, et elles ont déjà repris de plus belle.
Et en Israël, la politique n'est jamais très loin, Michel.
À retenir ce sondage publié par le quotidien Mariv, 54% des personnes interrogées pensent que Benjamin Netanyahou doit partir. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que 28% des membres du Likoud, le parti du Premier ministre israélien interrogé dans le cadre de ce sondage, sont du même avis. Toujours d'après ce sondage, on constate une forte baisse du Likoud et une montée en flèche du parti de droite nationaliste Yemina. À la une toujours, la confrontation au sein du parquet entre le procureur général et son ancien adjoint, révélée par la chaîne de télévision 12, avec l'interprétation qui en est donnée par les commentateurs de droite. Les poursuites judiciaires contre le Premier ministre israélien seraient le résultat de chantage exercé contre le procureur général israélien.
Alexandre, un reportage sur la transformation de la côte ouest libyenne en base de départ de migrants.
Oui, c'est le journal Ash-Sharq al-Awsat qui a fait le reportage et qui cite de nombreux témoignages d'habitants de cette région proche de la Tunisie et qui s'est transformée au fil de l'effondrement du pouvoir et de la guerre civile en zone où les milices se sont alliées avec les trafiquants d'êtres humains pour organiser le départ des migrants africains et arabes vers l'Italie. Les témoignages évoquent des exactions de la part des trafiquants à l'égard de ceux qui rêvent de l'Eldorado européen. Raquettes et tortures sans monnaie courante, indiquent les témoins au journal.
Alexandre, la presse égyptienne consacre nombre d'articles aux infractions de construction.
Oui, elles sont multiples. Elles se comptent en fait par millions et des infractions contre lesquelles le gouvernement a décidé de sévir. Aujourd'hui, on a le choix entre payer l'amende ou voir la construction rasée au bulldozer. Selon les journaux, 1 700 000 personnes ont déjà demandé une régularisation de leur situation contre le paiement de l'amende. Une manne qui permet de renflouer les caisses de l'État pour des années à venir, puisque les amendes sont parfois payables sur plusieurs années.
En bref, Michel, d'autres sujets que vous relevez pour nous?
La Knesset entérine l'accord de normalisation avec les Émirats Arabes Unis à une forte majorité. Les journaux soulignent que les 13 opposants à cet accord sont membres de la liste arabe unifiée qui estime qu'il faut avant tout faire la paix avec les Palestiniens. Pour le quotidien Yediot Acharonot, la prochaine normalisation pourrait bien être avec le Soudan. Dans la presse également, Israël approuve des milliers de logements supplémentaires en Cisjordanie. Les médias citent le mouvement « La paix maintenant » qui affirme que certaines autorisations seront accordées rétroactivement. Et puis aussi, plusieurs articles sont consacrés à un prisonnier de sécurité palestinien en grève de la faim, qui est en danger de mort, Maher el-Ahras, arrêté en juillet par les autorités israéliennes et accusé d'être un militant du djihad islamique. Haaretz, dans son éditorial ce week-end, réclame sa libération immédiate.
Et votre photo cette semaine, Michel Paul?
Eh bien, c'est la photo de l'écrivain israélien Yoshua Kenaz, qui est mort cette semaine à 83 ans, écrivain à succès. Il était aussi le traducteur en hébreu de très nombreux écrivains français, tels que Balzac, Flaubert, Gide et aussi Georges Simenon.
Merci Michel, merci Alexandre. Mathias Gulchani a réalisé ce nouveau numéro d'Orient Hebdo à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Demain, émission très musicale avec l'artiste libanais Wael Koudé qui se produira, si les conditions sanitaires le permettent, fin octobre sur la scène du festival Arabofolie à l'Institut du Monde Arabe à Paris. À demain donc, prenez soin de vous.